pas faux, l'émission qui vulgarise sans être vulgaire.
Ouais, c'est pas faux.
Bonjour tout le monde, bonjour Axel.
Bonjour Simon, bonjour à toutes et à tous.
Bienvenue dans votre nouveau numéro de C'est pas faux, l'émission de culture scientifique de Radio Phoenix.
Nous sommes ravis de vous accompagner aujourd'hui, comme chaque mardi à midi, pour parler science avec différents invités.
Nous sommes le 31 octobre et aujourd'hui nous parlerons de paléontologie.
Cette science qui étudie les fossiles fascine petits et grands car elle nous en dit un peu plus sur les mystères de la vie avant l'apparition des humains.
Pour mieux comprendre ce qu'est la paléontologie et connaître les différents fossiles qui peuplent les sols normands, nous serons avec Evelyne Catoire, membre de l'association paléontologique de Villers-sur-Mer.
Mais avant ça, c'est l'heure des infos sciences de la semaine.
Une innovation étonnante, des souris peuvent désormais vivre dans l'espace.
Oui, cette fois, les humains ne sont pas les seuls à peupler l'ISS. Ils ont récemment été accompagnés de souris, ou plutôt d'embryons de souris. Samedi dernier, des chercheurs japonais ont publié leur étude dans la revue scientifique iScience. Et ils sont formels, ces mammifères sont tout à fait capables de se développer normalement dans l'espace, en dépit de la gravité.
Et comment ça se passe concrètement ?
Eh bien, en août 2021, des chercheurs japonais et une équipe de l'agence spatiale JAXA ont envoyé des embryons de souris vers l'ISS. Les astronautes les ont alors reçus congelés dans un caisson spécial. Les embryons ont ensuite été mis en culture pendant 4 jours, ce qui correspond à la durée maximale de survie en dehors d'un utérus pour ces espèces à ce stade. C'est une fois renvoyés sur Terre que les chercheurs ont pu faire le constat d'une croissance normale de l'animal.
Et qu'a-t-elle de particulier cette expérience ?
Il s'agit de la toute première étude montrant que les mammifères pourraient être capables de prospérer dans l'espace, puisque l'expérience a notamment démontré que la gravité n'a pas d'effet significatif sur leur développement et qu'il n'y a aucun changement particulier au niveau des gènes et de l'ADN. En clair, si les souris le peuvent, nous le pouvons aussi. Et ce n'est pas rien, c'est une étape de plus dans le processus d'envoyer des hommes dans l'espace. Il sera peut-être bientôt possible de soigner la maladie de Raynaud. Des scientifiques viennent de découvrir 2 gènes impliqués dans cette pathologie.
Et oui, si vous ne connaissez pas le phénomène de Raynaud, c'est une maladie héréditaire qui affecte la circulation sanguine. Elle est responsable d'une coloration blanche des doigts quand la température diminue. Alors ça n'est pas quelque chose de grave, mais cela peut s'avérer parfois douloureux.
Mais donc, quels sont ces fameux gènes identifiés ?
Alors, il y a ADRA2A, c'est un récepteur de l'adrénaline classique du stress. Il provoque par exemple la contraction des petits vaisseaux sanguins. L'autre gène, c'est IRX1, son rôle à lui, c'est de réguler la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater. L'hypothèse pour les scientifiques, c'est qu'il y ait une association entre une hyperactivité d'ADRA2 et entre une augmentation de production d'IRX1. Conséquence, la circulation du flux sanguin est empêchée, ce qui provoque du spasme des vaisseaux. La découverte devra être confirmée, ce qui ouvrirait la voie à la mise en place de traitements face à la maladie. On a découvert un nouveau point commun entre les chimpanzés et les humains, et il est plutôt surprenant.
Oui, ce point commun, c'est la ménopause qui touche aussi les femelles singes. C'est une étude qui aura duré plus de 20 ans, au cours de laquelle des chercheurs ont examiné les taux de fertilité et de mortalité de 185 femelles chimpanzés de l'Ouganda. Ils sont arrivés à la conclusion que ces espèces vivent en moyenne 20% de leur vie adulte après avoir arrêté de se reproduire. Alors on pourrait se dire que cette infertilité est liée à une maladie, mais les chercheurs sont formels, les niveaux d'hormones des femelles singes suivent celles des humains.
Mais alors pourquoi cette ménopause ?
Bien, Brian Wood est un des chercheurs de l'étude et il explique cette étape dans la vie des chimpanzés par un besoin de réduire la concurrence entre femelles jeunes et plus âgées. Chez cette espèce, les femelles quittent leur communauté très tôt et laissent donc place à des plus jeunes, la reproduction étant un facteur de lien social. On reste chez les singes et on reste dans le domaine de l'insolite, puisque tout comme les hommes, les babouins seraient aussi capables d'être altruistes.
Et oui, c'est l'étonnant constat des chercheurs de l'université d'Aix-Marseille. Ils ont mené une expérience un peu particulière. En fait, ils ont placé des babouins devant 2 images. Le primate doit en choisir une sur les 2. S'il choisit la première, il gagne une récompense et permet à son voisin d'en profiter également. Mais s'il choisit la seconde, il sera le seul à en bénéficier. Or, les chercheurs ont remarqué que la moitié des babouins préfèrent l'image qui donne aussi une récompense à leur partenaire.
Mais il faut malheureusement relativiser cet altruisme.
Et oui, car il n'est pas totalement désintéressé. En fait, les babouins savent très bien qu'en récompensant leurs camarades, ces derniers en feront de même en retour. C'est donc calculé de leur part. A l'inverse, ceux qui ont préféré le choix égoïste l'ont parfois fait dans un esprit de vengeance d'un camarade qui n'aurait pas choisi l'altruisme. Et d'ailleurs, une information préoccupante pour tous ces singes altruistes et ménopausés, la production de bananes est touchée par une maladie.
Oui, et cette maladie, elle est bien connue, la maladie de Panama, c'est elle qui embête les plantations de bananes depuis le 19e siècle. Les producteurs avaient alors créé la bien connue Cavendish, la plus célèbre, résistante à ce virus. Problème, en 1997, des scientifiques ont découvert une nouvelle souche de cette maladie à laquelle la Cavendish n'était pas résistante. Résultat, la maladie se propage en Chine, en Inde, jusqu'en Amérique du Sud, à tel point que toutes les régions productrices de bananes sont aujourd'hui touchées.
Est-il possible de créer une nouvelle variété résistante à ce virus ?
Mais c'est précisément ce à quoi réfléchissent des chercheurs qui se penchent notamment sur des greffes pour rendre les bananiers plus résistants à ce fléau qui les assèche. Heureusement, la maladie progresse lentement, ce qui laisse un peu de temps aux scientifiques pour trouver une solution.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
Aussi fascinante que mystérieuse, la paléontologie est une discipline qui étudie les êtres et organismes vivants des temps géologiques grâce à l'observation des tout autant fascinants et mystérieux fossiles.
Et ça tombe bien car dans la région, des fossiles on en trouve en quantité, en particulier autour des falaises des Vaches Noires, à Villers-sur-Mer, un territoire où de nombreuses fouilles sont organisées par l'association paléontologique de Villers-sur-Mer.
Et pour mieux comprendre ce qu'est la paléontologie et connaître les différents fossiles qui peuplent les sols normands, nous sommes avec Evelyne Catoire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'association paléontologique de Villers-sur-Mer. Avant de commencer, j'aimerais savoir si ce qu'on vient de dire en introduction, c'est un bon résumé de ce qu'est la paléontologie.
C'est un très bon résumé de ce qu'est la paléontologie. Donc je tiens simplement à préciser en préambule ce que veut dire paléontologie en grec. Donc ça veut dire l'étude de la vie ancienne, soit la science des fossiles. Et en latin, fossile, c'est fossilis. Et fossilis, c'est les substances extraites du sol. Donc c'est bien, ou du sous-sol, donc tiré de la Terre.
Quand on parle de temps géologique, ça concerne quelle période exactement ?
Alors les temps géologiques, c'est pratiquement donc, depuis la création de la Terre. Nous, dans la paléontologie, on s'oriente sur quatre principales ères qui sont donc du primaire jusqu'au quaternaire, donc pratiquement à notre temps, donc à peu près moins 470 millions d'années. Je ne suis qu'une âme matrice. Donc vous m'excuserez le petit laps de temps de délai d'année si c'est pas bon.
Mais ça reste du coup un temps extrêmement long qui est étudié.
C'est un temps extrêmement long, mais en même temps, vu l'âge de la Terre, ça paraît quand même court. Je voulais revenir sur la paléontologie. C'est une science qui est récente, en fait. Elle vient du fin 18e siècle, début du 19e siècle. Elle est intimement liée à la méthode scientifique qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des croyances. Dans l'Antiquité, si on voyait une ammonite, on pensait que c'était, par exemple, un serpent pétrifié ou des rostres de mélimite, qui est la partie dure, comme un calamar aujourd'hui. Hein. Donc c'est une sorte d'os qui est effilé, un peu comme une balle. Et on pensait que c'était des griffes d'animaux. Voire, à un moment donné aussi dans les croyances, quand on trouvait donc des restes de fossiles, on rapprochait ça du déluge. Et donc on pensait que c'était des restes d'animaux liés à la période du déluge.
Comme on le disait tout à l'heure, donc la paléontologie c'est quand même intimement lié aux fossiles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se forme un fossile ?
Oui, je peux vous expliquer comment ça se forme. Je peux simplement revenir sur la période des naturalistes. Donc, il y a eu pas mal d'extensions en 18e, 19e siècle. Donc, on peut citer Buffon, on peut citer Cuvier, on peut citer Lamarck. Et donc, ils avaient tous des hypothèses un petit peu différentes, justement, sur ce que c'est un fossile et sur l'évolution des espèces. Il y en a qui étaient plutôt dans le fixicisme, d'autres dans le catastrophisme, d'autres qui pensaient que c'était l'évolution des espèces. Et donc ça a été grâce à eux quelque part qu'aujourd'hui on peut voir ce qu'est un fossile et l'évolution entre avant et maintenant.
Alors quand on trouve un fossile, comment est-ce qu'on arrive à déterminer précisément à quelle espèce il appartient ? Comment ça se passe ?
Comment on sait à quel type de fossile on a affaire ? Donc en fait, quand on est amateur ou amatrice comme nous dans le club, on se fait aider soit des experts, soit de la littérature qui existe, soit on va voir carrément le muséum, donc en espèce sur Villers, on peut aller au Paléospace, ou encore...
Qui est un musée à côté.
C'est un musée, oui, qui est à côté, qui vaut vraiment le coup d'œil. On peut y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Et puis, n'oublions pas aussi que dans certaines couches, il y a des fossiles qui s'appellent des fossiles marqueurs, c'est-à-dire qu'on ne peut les trouver que pendant cette ère faire cette couche et on ne les trouvera pas dans un autre temps géologique.
Et donc je reviens sur la naissance du fossile en tant que tel. Qu'est-ce qui fait que quand une espèce meurt au fur et à mesure des années, elle se transforme? Vous nous en avez amené d'ailleurs des petits, voilà, des sortes de petites roches. Comment on en arrive là?
Alors on en arrive là. Déjà, on peut peut-être revenir sur sur le processus de fossilisation, si vous le souhaitez. Donc quand un être vivant, un animal meurt, généralement, donc il va couler et se mettre au fond de l'eau, donc il va tomber. Il y a un phénomène d'enfouissement qui, à ce moment-là, se produit. Il doit être relativement rapide dans le temps pour que les sédiments le recouvrent. Et à ce moment-là, il y a aussi un processus de minéralisation, c'est-à-dire que l'eau est chargée de minéraux, et cette eau chargée de minéraux va se déposer sur la coquille, sur l'os, et va y avoir un transfert et donc une réaction chimique qui fait que le fossile s'approprie la nature des minéraux.
Et quelles sont les différentes informations que peuvent livrer un fossile quand on en découvre un? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui?
Alors quand on trouve un fossile, déjà, quelque part, on va le classifier. C'est-à-dire, est-ce que c'est une ammonite? Est-ce que c'est un nautile? Est-ce que c'est un bivalve? Est-ce que c'est un corail? Est-ce que c'est une éponge? Donc déjà, on a des indications qui se trouvent généralement dans la classification. Et après, eh bien, soit on peut retrouver pratiquement dans le monde actuel un coquillage qui se rapproche, par exemple si c'est un mollusque ou un bivalve, des mers chaudes qui se rapproche d'un fossile existant. Sinon, il faut simplement retourner dans la littérature paléontologique.
Oui, globalement, c'est les connaissances qui nous permettent le plus possible de décoder au mieux chaque fossile qu'on trouve.
Tout à fait, c'est les connaissances, complètement.
Et quand on pense paléontologie, bien souvent on pense dinosaures, mais est-ce que ça concerne finalement une si grande partie de vos travaux, de vous les paléontologues, les dinosaures?
Alors, concernant Villers-sur-Mer, ce site il est mondialement connu, il est intéressant, parce que justement on va dans des étages assez bas, alors on est toujours au secondaire, donc on part du Calovien jusqu'au Cénomanien, et donc on a un spectre énorme de fossiles différents. On a trouvé quelques... Alors ce ne sont pas des dinosaures. Les dinosaures, c'est, des êtres terrestres. C'est plutôt
des dinosaures marins, ou en tout cas des espèces marines.
Oui, c'est ça, tout à fait. Alors je vais vous citer ce qu'on a pu trouver qui est intéressant. Alors c'est des reptiles marins. Hein. Alors ils étaient d'une taille assez conséquente. Donc il y avait des ichthyosaures, des plésiosaures qui ont été retrouvés à Villers. Alors ils ne sont pas entiers puisque généralement avec le courant on ne retrouve que des morceaux de squelette. Mais il y a des vertèbres qui ont été trouvées, il y a des crânes, il y a des dents. Et donc bien sûr on peut aussi en voir au paléospace.
Quelles sont les grandes découvertes aujourd'hui notables qui ont marqué l'histoire de la paléontologie et qui ont fait évoluer la discipline?
On trouve toujours de nouvelles espèces. Elles sont pas forcément, extraordinairement belles ou visibles, puisque un fossile, il y a aussi des macrofossiles, il y a des foraminifères qui sont des êtres unicellulaires, mais c'est pas forcément des découvertes spectaculaires.
Les 14 et 15 octobre dernier, un colloque s'est tenu justement à Villers-sur-Mer, notamment afin de partager les récents travaux d'une vingtaine de chercheurs scientifiques. Qu'est-ce que continuent de découvrir les paléontologues encore aujourd'hui ?
Alors, les paléontologues continuent à découvrir des nouveaux sites. Donc, ça veut dire des nouvelles fouilles. Généralement, les fouilles durent assez longtemps puisqu'il faut extraire les fossiles et après, il faut les nettoyer, les identifier. Et généralement, donc, comme vous l'avez cité au colloque, c'est Didier Merle, donc un paléontologue du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui présidait donc ces deux jours qui mène ces découvertes.
On continue de parler de paléontologie avec vous, Evelyne Catoire, mais avant, on va faire une petite pause musicale et écouter Finamore de La Copine de Flipper. A tout de suite dans C'est pas faux.
Je crève le caillou avec ton nom, t'as pris 6 mois au fond de mon cœur, je te lâche.
C'était Fine Amor de la copine de Flipper. Vous êtes toujours sur Radio Phoenix à l'écoute de C'est pas faux. Aujourd'hui, nous parlons paléontologie avec Evelyne Catoire, membre de l'association paléontologique de Villers-sur-Mer. Avec votre association, vous organisez régulièrement des fouilles. Mais comment s'organise précisément une bonne opération de fouille?
Alors, il y a plusieurs manières de trouver des fossiles. Donc, on peut les trouver en se promenant, tout simplement en famille, dans des champs. On peut les trouver dans des carrières, on peut les trouver dans des faluns, par exemple en Touraine, hein, y a encore des faluns qui sont, en exploitation. En fait, ces faluns, c'est des centres de sédiments, c'est du calcaire coquillé qui est assez compact et qui servait autrefois à faire et à remblayer les routes. Donc il y a encore deux ou trois carrières qui sont accessibles, qui sont beaucoup plus récentes que au niveau ergéologique que ce qu'on peut trouver à Villers-sur-Mer, puisque c'est du Miocène, donc on va dire entre 20 et 30 millions d'années approximativement. Donc pour trouver des fossiles, il y a une règle primordiale, c'est si on va sur un site qui est privé, c'est demander l'autorisation. C'est indispensable. De plus en plus donc, de personnes sont sensibles, hein, de propriétaires, au fait que des personnes non désirables viennent sur leur terre. Et à ce moment-là, ça peut tourner, j'allais dire, à une arrestation ou à
autre problème.
Voilà, autre problème, tout à fait. Donc pour trouver des fossiles, il y a des outillages qui sont complètement différents. Si vous allez par exemple dans un champ, un simple sac et puis un petit bâton pour retourner ce que vous voyez, les ramasser suffira. Après dans une carrière, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut extraire de la carrière vos fossiles, donc il faut taper assez dur. Donc il faut des burins, il faut des marteaux, il faut des vêtements de sécurité qui sont obligatoires, qui sont les casques, les lunettes, le gilet jaune, les chaussures de sécurité, les gants. Et vous ramassez à ce moment-là des pierres, des morceaux de roche, on va dire, que vous ramenez chez vous et que vous dégagez après avec minutie.
Est-ce qu'il y a des bases aussi à connaître, hormis le fait de savoir si on a le droit d'extraire sur tel ou tel endroit, mais est-ce qu'il y a des bases à connaître sur les différents fossiles qu'on peut trouver, ou est-ce qu'on peut un peu y aller à l'aventure et ramasser les fossiles?
Non, pour trouver des fossiles, alors soit on va à l'aventure, après tout, pourquoi pas. Sinon, il existe, j'allais dire, une aide, qui sont les cartes géologiques, qui indiquent les couches sur le terrain que vous voulez prospecter. Et puis, il y a des échelles stratigraphiques qui sont classées en ère, en période, en époque, en étage et en âge. Et donc, si par exemple je vais à Villers-sur-Mer, je prends la carte géologique de Villers-sur-Mer, normalement on va voir en effet que vous retrouvez du Calovien, de l'Oxfordien, d'Isénomanien.
Alors qui est habilité à effectuer ces fouilles d'un point de vue légal? Comment est-ce que c'est encadré? Est-ce que n'importe qui peut faire des fouilles finalement, ou comment ça se passe?
Alors n'importe qui peut faire des fouilles, oui, en amateur. Après, il y a des sites qui sont protégés, sur lesquels vous ne pourrez jamais aller. C'est pour ça que quand vous allez, vous voulez prospecter sur le littoral ou dans un champ, il faut déjà se renseigner, en effet, si c'est un terrain privé, mais également s'il y a des restrictions qui sont données par la commune ou l'État.
En ce qui concerne le contenu de ce qu'on peut trouver dans la région, on est sur un endroit qui a quand même un certain relief. Est-ce qu'on va trouver les mêmes types de fossiles en fonction de la profondeur ou de l'endroit où on est?
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'à Villers-sur-Mer, si vous regardez un petit peu la plage, vous trouvez donc sur les vaches noires, c'est entre Houlgate et Villers, donc vous avez l'estran. Donc ce que je voulais dire, qui est aussi très important à Villers-sur-Mer, vous n'avez pas le droit d'aller sur les falaises qui ne sont pas forcément abruptes, mais il y a une loi qui interdit depuis 1995 d'aller en haut. Pour plusieurs raisons, d'une part parce que c'est dangereux, les marnes sont molles, donc on peut s'enfoncer, s'enliser, et il peut y avoir des chutes de pierres. Donc là, c'est formellement interdit. Par contre, vous avez le droit de ramasser aujourd'hui sur l'estran ce que vous voulez. Donc, sur l'estran, c'est du calovien. Donc, plus vous montez, plus la couche est récente. Hormis, bien sûr, des remaniements géologiques, mais s'il n'y a pas de remaniement, en effet, plus la strate est haute, plus c'est récent.
Oui, c'est ça. En gros, c'est différent parce qu'au fur et à mesure des années, ça s'accumule et donc naturellement, c'est là où on trouve des différences. Est-ce qu'on a aussi des sites dans la région, hormis, vous citiez forcément Villers-sur-Mer, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres sites où on a plus de chances de trouver des fossiles, ou est-ce que vraiment Villers, c'est le poumon, entre guillemets?
Alors, Villers, c'est le site qui a, j'allais dire, le plus de diversité de fossiles. Donc vous avez vraiment, vous trouvez pratiquement de tout pour ce qui est du Jurassique. Par contre, vous pouvez, il y a des sites qui sont connus, hein, qui sont Lyon et Luc-sur-Mer, où vous allez trouver beaucoup moins d'espèces. Et puis vous avez des sites intérieurs, vers Caen d'ailleurs, il y a des carrières qui sont connues, comme la carrière de Freinet de Puceux.
Et pourquoi tous ces lieux sont particulièrement propices à la découverte de fossiles? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier?
Déjà, c'est l'accessibilité. Tout ce qui est le littoral, donc que ça soit au niveau de la Normandie, mais ça peut être aussi dans les Charentes-Maritimes, en Vendée, dans le sud. C'est bien sûr la facilité d'aller au bord de la mer ou vers le Havre, au niveau des falaises. Et puis le fait aussi que, au niveau paléontologique et géologique, on va retrouver dans ces falaises beaucoup de fossiles qui vont tomber sur la plage. Donc là, c'est évidemment très facile. Par contre, si vous allez dans une carrière comme celle de Fresnel-Puceux, qui a eu énormément de succès il y a quelques années parce qu'elle était aussi très riche, mais dans d'autres étages, c'est beaucoup plus compliqué. Et en plus, j'allais dire, les accès sont donnés au compte-gouttes.
Mais au-delà de l'accessibilité, j'imagine aussi qu'il y a peut-être des lieux où naturellement, il y a plus de fossiles qui sont présents, de par peut-être l'histoire géologique du lieu ou autre.
Alors dans un terrain, quand il n'y a pas de fossiles, soit en effet il y a eu défaut de fossiles parce que la fossilisation ne s'est pas bien faite, ça se peut aussi, hein, ou parce qu'il n'y a jamais eu, d'êtres qui étaient là. Je voudrais rappeler quand même qu'en Normandie, il y a à peu près 200 millions d'années, il y avait, un grand continent qui s'appelait la Pangée. Et que, à l'ère de Villers-sur-Mer, donc à peu près à moins 150 millions d'années, la Pangée s'est ouverte et donc il y avait la dérive des continents. Et la Normandie était dans l'eau. Et donc la Normandie étant dans l'eau, évidemment, on va trouver des fossiles marins, énormément de fossiles marins. Et quand on parlait de dinosaures tout à l'heure, donc on a vu qu'il y avait des reptiles marins qui étaient dans cette eau, mais aussi on découvre, et c'est pour ça que le site de Villers est aussi intéressant, quelques ossements de vrais dinosaures terrestres. Et ces dinosaures terrestres, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est des dinosaures qui venaient, en fait, quand la Pangée donc, s'est ouverte sur des continents et que la Normandie était dans l'eau, il y avait quand même quelques îles qui étaient émergées. Et donc, sur ces îles, il y avait des dinosaures. Et quelques restes de dinosaures qui sont morts et qui sont tombés dans l'eau ont dérivé et ont atterri à Villers.
Et donc, grâce à ces découvertes, est-ce qu'on peut s'imaginer à quoi ressemblait la vie en Normandie avant l'apparition des humains, au vu de ce qu'on a découvert en termes de fossiles?
Oui, complètement. Donc, quand on parlait tout à l'heure des reptiles marins comme les ichthyosaures et les plésiosaures, on peut s'imaginer donc déjà des reptiles marins qui étaient gigantesques. Hein, ils allaient de 1 mètre à plusieurs mètres. C'était des animaux donc qui mangeaient à l'époque dans l'eau et sous l'eau, donc les ammonites, les roses de bélimite, par exemple, et des coquillages. Il y avait aussi des poissons qui étaient broyeurs, donc ils avaient des dents qui étaient en fait c'est comme des petites billes dans les palais, hein, comme aujourd'hui des dents de raie ou des dents de dorade, et qui broyaient des coquillages pour manger.
On le sait, la région et particulièrement la côte sont touchées par l'érosion, mais est-ce que l'érosion des falaises peut aussi jouer un rôle dans la découverte des fossiles, rendre accessible de nouveaux lieux où on peut trouver de nouveaux fossiles?
Oui. Alors le phénomène d'érosion à Villers-sur-Mer est assez conséquent. On peut lire sur Internet que l'érosion naturelle déverse chaque année 450 000 tonnes de sédiments sur l'estran, ce qui est énorme. Les fossiles de Villers, en fait, on les découvre, bon, pas la peine de monter sur les falaises, on les découvre parce que la pluie, en fait, ramène les fossiles à travers les marnes en bas. Sur l'estran. Et donc on découvre en se promenant ces fossiles qui découlent de la falaise de haut en bas, donc du Cénomanien jusqu'au Calovien.
D'ailleurs là aussi, est-ce que les fossiles nous informent sur ce à quoi ressemblait la géologie de la côte normande autrefois? Est-ce qu'elle était la même qu'aujourd'hui?
Tout comme la vie a pu évoluer au fur et à mesure du temps, est-ce que la côte normande ressemblait à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui?
Elle était dans l'eau. Je veux dire par là que la géologie, en fait, qu'est-ce qui s'est passé justement quand... alors n'oublions pas qu'il y a eu des transgressions et des régressions marines, hein, et c'est à l'occasion de régressions d'ailleurs qu'on voit apparaître des fossiles sur la Terre, mais la Normandie était dans l'eau, donc en termes de géologie, c'était des sédiments.
Mais il y a un autre problème qui peut avoir lieu avec l'érosion, c'est forcément... il y a une fragilisation du littoral. Et est-ce que peut-être à long terme, on peut imaginer que des interdictions vont être mises en place pour la fouille au nom de la protection du littoral ?
Alors complètement. Il y a un projet de réserve naturelle qui est en cours d'être décidé. Elle porte sur donc des entités géographiques qui sont tout le long du littoral et qui concernent les falaises du Jurassique. Il y a à peu près 37 km de côte. Il y a 8 sites qui sont au bord de l'eau et 2 qui se situent dans les terres. Donc la commune la plus occidentale est celle de Cricqueville-en-Bessin et la plus orientale est celle de Ville-en-Ville. Donc 37 km qui vont être transformés en réserves naturelles, donc faune, flore, etc. et aussi qui doivent être marqués par l'interdiction de ramassage de fossiles, ce dont luttent plusieurs maires qui sont évidemment contre. Donc les parlementaires ont été reçus récemment par le secrétaire d'État auprès du ministère de la Transition écologique et de la cohésion du territoire. La décision sera donnée fin 2023, sachant évidemment qu'il y a eu des nombreuses pétitions, des nombreuses oppositions et que des collectifs existent comme l'Association de défense de la paléontologie normande qui veulent supprimer cette interdiction de ramassage.
Ouais, donc il y a un vrai danger pour les paléontologue amateur, quoi.
Ah, complètement. On risque de ne plus pouvoir ramasser, puisqu'il faut savoir aussi qu'un fossile qui est sur l'estran, et donc qui est découvert, n'a que quelques heures, voire quelques jours de vie avant d'être détruit par la mer.
Pour terminer, j'aimerais qu'on parle du Paléospace situé à Villers-sur-Mer. C'est un musée où se trouvent des fossiles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce qu'on y trouve exactement ?
Alors, le Paléospace est un musée très intéressant. Il a pas mal d'activités. Ils sont montrés tous les fossiles de Villers-sur-Mer qui sont trouvés. De la couche calovienne jusqu'au saumonien. On y voit donc tous les centres de fossiles. La plupart ont été donnés par des bénévoles. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a de nombreuses personnes qui font des dons au Paléospace. Et dès qu'une pièce intéressante est trouvée, certaines personnes vont les porter au muséum, alors soit du Havre pour ce qui est plus haut, soit au Paléospace de Villers-sur-Mer. On y voit aussi des squelettes de dinosaures et des squelettes, un ou deux squelettes de reptiles marins.
C'est des squelettes complets ou il y a eu aussi des réarrangements
Alors des squelettes complets, je ne sais pas, mais en tout cas, quand on les voit, ils sont reconstitués. Pour certains, avec des vrais fossiles et complétés, je pense, par des moulages.
Et vous avez vous-même ramené deux petits fossiles aujourd'hui dans notre studio. Ils proviennent du musée ou c'est votre collection personnelle ?
Non, c'est une collecte. Ma collection personnelle, c'est un bien gros mot. Ce sont des collectes. En fait, c'est ce qu'on peut ramasser, vous comme moi, en se promenant à Villers-sur-Mer.
Et là, en l'occurrence, c'est quoi comme cela ?
Alors, il y a une huître, ça vient de l'Oxfordien, donc il y a une huître qui s'appelle une Lopha gregarea, qui est typique de la couche oxfordienne de Villers, et il y a de la famille des Trigonia, donc une petite Myophorella juvénile, donc c'est un bivalve.
Donc là, on les voit vraiment sous format plus rocheux. Donc ça ressemblait à quoi à peu près quand c'était vivant, enfin quand c'était pas encore fossilisé
Comme un coquillage, comme une huître d'aujourd'hui, une moule, mais on peut trouver aussi l'ancêtre de la moule sur Villers-sur-Mer, comme un coquillage plus ou moins nacré.
Merci beaucoup Evelyne Catoire d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre de l'association paléontologique de Villers-sur-Mer. Merci et bonne journée à vous.
Merci.
Vous écoutez C'est pas faux sur Radio Phoenix.
C'est pas faux, c'est bientôt terminé, mais avant de se quitter, voici l'agenda de la semaine.
Et on commence cet agenda avec Le Dôme qui vous propose ce samedi à partir de 14h une visite guidée de l'espace découverte des générations plastiques. Il permet d'en savoir plus sur les problématiques liées au plastique et de découvrir les initiatives des équipes de recherche de Normandie. L'espace contient 3 modules, le mur à déchets, le tableau d'investigation et l'espace de recherche. A noter qu'hormis la visite guidée de samedi, l'espace découverte est ouvert en visite libre le mercredi de 14h à 20h et du jeudi au samedi de 14h à 18h. Plus d'informations sur le site ledome.info.
Et comme chaque semaine, voici notre recommandation documentaire avec France 5 qui propose ce soir un documentaire sur le gaspillage alimentaire. Ce dernier met en avant les initiatives menées pour lutter contre ce fléau qui coûte plus de 16 milliards d'euros par an. Gaspillage alimentaire, ne jetez plus, c'est ce soir à 21h05 sur France 5.
C'est pas faux, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes en podcast sur phoenix.fm.
Merci à Lucas à la technique aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Dans quelques instants, rendez-vous avec Johan pour la Méridienne. Passez une bonne journée sur Radio Phoenix.